L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On a le privilège de se tourner nos regards dans la parole de Dieu et voir qu'est-ce qu'il y a à nous dire concernant la guérison divine. Combien de personnes ici ce soir, vous avez besoin de guérison? Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a plusieurs, hein? Amen. Et hier, je me suis réveillé et j'avais planifié enseigner sur la guérison divine. Et puis, je me suis réveillé dans une attaque physique. Et puis, j'ai dit, c'est comme le diable, hein? On va prêcher sur la guérison divine. Et puis là, il veut nous attaquer pour pas qu'on enseigne sur la guérison divine. Mais moi, savez-vous, il me dérange pas le diable. Je vais enseigner sur la guérison divine malgré les défis des fois qu'on peut avoir. Parce que la parole de Dieu ne change jamais. Amen. Dieu change pas. Sa parole change pas. Alors, on peut vraiment se fier à ce que Dieu dit, puis se réjouir là-dedans. Alors, le sujet ce soir, c'est la guérison divine, et j'ai écrit 101. Comme vous savez, 101, ça représente un cours d'école où on apprend vraiment la base. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr qu'il y en a, vous allez quitter peut-être, puis vous allez dire, oui, mais tu n'as pas répondu telle chose, Joël. Et puis, ça va être impossible pour moi de tout répondre dans une seule réunion. C'est pour ça que je vous recommande le livre de F.F. Bosworth, Christ the Healer, si vous voulez vraiment vous approfondir dans le sujet de la guérison divine. Cependant, ce soir, ce qu'on va faire, c'est établir vraiment une base solide pour vous. Comme ça, vous allez être convaincu, lorsque vous allez quitter cette église, vous allez être convaincu que c'est la volonté de Dieu pour vous d'être guéri. Donc, c'est la chose qu'on veut établir dans votre cœur, que Dieu veut que vous soyez guéri ce soir. Amen. Alors, la base, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Alors, je vous invite à tourner dans le psaume 136 et le verset 1. Comme d'habitude, on a plusieurs versets dans la parole. Alors, des fois, peut-être, vous n'aurez pas le temps de tourner là et je vais juste les lire comme ça, mais vous pouvez noter les références. Donc, la guérison divine, le psaume 136, ici, on lit sur la bonté de Dieu. Si on veut croire que Dieu veut qu'on soit guéri, la première chose qu'on doit établir dans notre cœur, c'est que le bon Dieu est bon. Au Québec, on dit, en parlant de Dieu, on parle du bon Dieu, mais souvent le bon Dieu, il est mauvais. Et on dit toutes sortes de choses terribles à son sujet, mais à ce soir, ce qu'on va faire, on va rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ et on va être rafraîchis, on va changer nos pensées, on va vivre la métamorphose de Dieu pour vraiment voir ce que Dieu dit à son sujet. Donc, le psaume 136, c'est le verset 1. Il est écrit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. C'est simple, l'Éternel est bon. Vous croyez ça ce soir? Amen. Psaume 145 maintenant, et le verset 8 à 9, il est écrit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Et quand quelqu'un est plein de quelque chose, il n'y a pas de place pour d'autres choses. Amen. L'Éternel est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous faites partie du tous, n'est-ce pas? Ici, l'Éternel est bon envers tous. Donc, l'Éternel est bon envers vous ce soir. Si vous lui laissez vous bénir, si vous lui laissez se révéler comme étant le bon Dieu dans vos vies. Amen. Donc, l'Éternel est bon envers tous. Et Jacques 1, verset 17. Ici, on peut discerner quand quelque chose vient de Dieu et quand quelque chose vient de l'ennemi. Dans Jacques 1, verset 17, il est écrit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ça veut dire que si Dieu voulait guérir dans le passé, il veut encore guérir aujourd'hui. Il n'a pas changé d'idée, il n'y a ni changement ni ombre de variation avec lui. Si Dieu avait le cœur pour ses enfants, celui qui guérissait son cœur n'a pas changé. Dieu aime toujours ses enfants et Dieu veut toujours nous voir dans la guérison. Et puis, une des choses que j'ai trouvées vraiment importante, c'est que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes entre nous qui ont été malades, qui ont été attaquées dans leur corps. Et moi, je me suis dit, faut vraiment faire, c'est vous donner des armes pour savoir comment vous défendre. Vous savez, on peut avoir des temps où on a des réunions de guérison, où quelqu'un vient et prie pour les malades, et c'est merveilleux quand on vit des temps dans la gloire comme ça. Mais il y a des temps aussi où on est à la maison, on n'est pas dans le cadre d'une réunion comme ça, et on doit savoir comment se lever et comment prendre notre position et nos armes pour résister à l'ennemi. Vous savez, on peut se réveiller un matin malade puis dire, je vais rester toute la journée couché dans le lit, ou on peut dire, OK, moi, je vais résister à l'œuvre de Satan. Et moi, je crois, si on prend vraiment en note ces versets-là puis on les laisse travailler dans nos cœurs, on peut résister puis pas être accablé puis pas être complètement mis à terre par l'ennemi. Amen. Donc, ça, c'est une chose, on voit que Dieu est bon, et on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bon. Devinez, c'est qui? Satan. Dans Jean 10, versets 10 à 11, il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Mais ça, c'est Jésus qui parle ensuite. « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, Jésus, c'est le bon berger pour nous aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas celui qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire. Au contraire, c'est celui qui est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Vous croyez ça ce soir? Amen. Donc, et une des choses, on voit la manifestation de cette bonté dans la vie de Jésus-Christ. Dans Actes, chapitre 10, verset 38, ça dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ça, c'est le travail de Jésus. Partout ce qui passait, où les gens croyaient dans la possibilité d'être guéris, ceux qui croyaient en Jésus-Christ, Jésus guérissait tout le monde. Il ne passait pas à côté de quelqu'un et dire, « Toi, je ne veux pas te guérir » ou « Je n'ai pas fini de t'enseigner par cette maladie. » Au Québec, on pourrait parler avec des gens, avec des chrétiens, et puis souvent, on pourrait s'imaginer toutes sortes de discours. Les gens vont dire toutes sortes de choses quand vous êtes malade. « Ah, ben peut-être Dieu est en train de vous enseigner quelque chose. » Mais si on regarde dans la parole de Dieu, il n'y a aucune place où Jésus a dit à quelqu'un, « Je m'excuse, je ne peux pas te guérir. » Dieu est en train de faire un travail dans ta vie et puis il faut attendre quelques mois, quelques semaines, jusqu'à temps vraiment que tu sois perfectionnisé. Hein? On ne voit pas ça dans la parole, mais la tradition des hommes rajoute toutes sortes d'affaires qui sont erronées, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, la grande question, vous allez quitter cette église soit raffermie dans votre foi, dans la guérison divine, ou soit vous allez sortir indifférent. C'est quoi qui va faire la différence dans tout ça? C'est votre niveau de foi, puis pas simplement la foi dans l'œuvre de Dieu pour vous, pas simplement dans la possibilité que Dieu vous guérisse, mais dans la question de la volonté de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous soyez guéri ou non? Et est-ce que vous allez croire la parole de Dieu ou croire la tradition? Est-ce que vous allez croire la parole de Dieu ou les opinions des gens? C'est ça qui va tout déterminer, ou même nos symptômes. Des fois, on va dire, « Ouais, mais mes symptômes disent ça. » Mais on s'en fout qu'est-ce que nos symptômes disent. Dieu dit une chose, puis on va mettre notre foi dans ce que Dieu dit, malgré les symptômes. Alors, il y a un choix devant vous, et on est toujours devant ce choix-là. Si on croit Dieu, ou on croit les gens, ou on se croit soi-même. Vous savez, j'ai parlé avec une sœur dans le Seigneur, et puis elle me disait qu'elle avait écouté à la radio des enseignements sur la guérison divine. Et puis elle dit, « Moi, Joël, elle dit, je suis pas d'accord avec toi. » J'ai dit, « OK. » Et, correct, pas de problème, explique-moi. Puis elle dit, ouais, mais là, elle me donnait toutes sortes de raisons pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on soit guéri. J'ai dit, OK, j'écoutais toutes ces affaires, mais j'ai dit, mais est-ce que tu peux me donner les versets de la parole de Dieu dans ce que tu es en train de me dire? Elle dit, ben non, là, mais c'est ça que je crois. J'ai dit, OK, mais tu es libre de croire qu'est-ce que tu veux. On est tous libres de croire ce qu'on veut. On peut croire, vous savez, qu'on va prendre l'avion puis s'en aller au Saint-Hubert plus tard ou des choses semblables, mais même si on croit ça, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Où on doit croire, là, c'est croire la parole de Dieu. C'est la seule base pour notre foi. Et moi, c'est ça qu'on vous met devant vous ce soir, c'est le choix entre deux choses. Donc, la parole de Dieu ou la parole de la tradition. Dans Proverbe 4, versets 20 à 23, ici on a le conseil de Dieu. C'est dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, notre cœur là, peut être rempli de toutes sortes d'affaires. Et notre cœur va nous empêcher de croire ce que Dieu veut pour nous. On peut être dans une bataille, on peut écouter quelqu'un prêcher et dire, « Moi, je ne crois pas qu'est-ce qu'il dit. » Vous savez, il y a plusieurs chrétiens comme ça qui vont croire leur opinion plus que l'opinion de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu et se soumettre à ce que Dieu dit? Même, je me souviens, je faisais partie d'une émission de télé, c'était l'émission Insight, et puis c'était une émission où les gens pouvaient appeler pour poser des questions. C'était un call-in talk show. Et puis moi, j'enseignais justement sur la guérison divine. Alors, il y avait des gens partout à travers le Canada qui appelaient pour poser des questions. Et puis, en parlant avec les gens, j'ai été vraiment estomaqué par le niveau d'incrédulité de la parole de Dieu dans la vie des gens. On amenait des versets et les gens appelaient et disaient « Oui, mais telle chose ». Il y avait toutes sortes de raisons pourquoi on ne pouvait pas croire ce que Dieu avait dit. « Oui, mais ». Et là, à la fin de l'émission, j'ai dit finalement, j'ai dit, tout ce que vous me dites, j'ai dit, c'est pas la parole de Dieu. J'ai dit, c'est soit vous croyez Dieu ou vous croyez votre raisonnement. C'est libre à vous. On peut croire notre raisonnement ou on peut croire Dieu. Moi, j'ai choisi de croire Dieu. Donc, mais c'est toujours ça. La question, si on rentre dans la destinée ou rentre dans les bontés de Dieu, ça dépend toujours de notre attitude de cœur. C'est pour ça qu'on doit garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si notre cœur est en santé, notre cœur spirituel, le restant va suivre. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne viendra pas nous attaquer. J'ai jamais dit ça. L'ennemi peut venir nous attaquer dans notre corps. L'ennemi peut venir faire des choses, mais nous, on va résister. On ne va pas se mettre à terre, se coucher à terre comme un tapis et dire, « OK, viens faire qu'est-ce que tu veux. » L'ennemi va essayer de faire toutes sortes de choses, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut prendre les armes qu'il nous donne. Dans Marc 7, verset 13, Jésus a dit, « Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. » Donc, vous annulez la parole de Dieu. La parole est donnée, vous l'annulez, comment? Par votre tradition. « Ouais, mais je n'ai pas été enseigné comme ça, moi. » Ça, ce n'est une tradition. Amen. Donc, quel rapport croyez-vous? Le rapport de Dieu ou le rapport des hommes? J'espère qu'on va tous dire, on va croire ce que Dieu dit et pas ce qu'on croit à cause de la tradition du passé. Donc, ce soir, est-ce qu'on veut croire ce que Dieu dit? Amen. C'est bon. Donc, le rapport médical de Dieu. On va aller voir ce que Dieu dit concernant notre santé, le rapport médical. Peut-être que vous êtes allé voir un médecin et le médecin vous a dit, « Bon, vous avez telle maladie, vous ne serez jamais guéri. » Ça se peut que le médecin vous a dit ça. Même, en tout cas, on connaît des gens qui ont eu ce rapport-là et ont décidé de croire le rapport de Dieu. Amen. Donc, dans psaume 103, notre sœur tantôt l'a lu, j'ai trouvé ça spécial, on va le lire encore, le psaume 103 et le verset 1 jusqu'à 5. Psaume 103, ça c'est vraiment merveilleux. Et en passant, vous pourrez lire également le psaume 91, ça n'est un autre bon, un autre passage de la parole de Dieu qui va vous bénir. Psaume 103, ça dit, psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voyez, votre âme, là, c'est vos pensées, vos émotions, votre volonté. Donc, David est en train de dire ici, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Ça, c'est au verset 3. Donc, on croit ça, que Dieu veut pardonner tous nos péchés. Et ensuite, ça dit « qui guérit toutes tes maladies ». Toutes tes maladies. Ça ne dit pas certaines maladies, ça dit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Et j'ai le goût d'aller lire le psaume 91. Il y a un texte ici là, que je trouve qui serait vraiment bon. Non seulement ce que Dieu veut nous guérir, mais il veut également qu'on vive de longs jours. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on meure avant notre temps. Puis notre temps, c'est de longs jours. Psaume 91, au verset 16, ça dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Si vous connaissez quelqu'un qui meurt à 25 ans, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que dans la parole, c'est dit « Vous allez le rassasier de longs jours. » 25 ans, ce n'est pas de longs jours. Je dirais 95 ans, 120 ans, ça c'est de longs jours. Amen. Donc, si ça vous tente de vivre jusqu'à 120 ans, allez-y, vivez longtemps. OK? Mais il faut être renouvelé dans notre intelligence. Si on croit que, ça se peut que je vais avoir une crise de cœur à 50 ans, comme mon père, mon grand-père, puis il y en a qui pensent comme ça. Et finalement, à 50 ans, ils ont une crise de cœur, ils meurent, puis, le Seigneur est venu chercher. Non, le Seigneur n'est pas venu chercher. Cette personne-là s'est maudite toute sa vie, et puis il a vécu qu'est-ce que ses paroles ont décrété. Et j'ai déjà raconté l'histoire, un jeune homme, il disait, moi, avant l'âge de 30 ans, je vais mourir. C'est ça qu'il disait toujours. Avant l'âge de 30 ans, moi, je suis allé l'enterrer. Il avait 29 ans, je crois. C'est triste, mais c'est des choses comme ça. On décrète ça sur notre vie, puis après, c'est Dieu qui est venu chercher la personne. Non, il y a des lois spirituelles en opération, puis avec notre bouche, on peut décréter soit la parole de Dieu, soit la tradition, ou soit même les mensonges de l'ennemi. Mais les traditions, c'est ça, entre autres, là. Donc, on est en train de voir le rapport médical de Dieu. Et dans Ésaïe 53, verset 5, ici, on voit ce que Jésus a fait pour nous. Ésaïe 53, verset 5, ça dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, c'est l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour nous. À cause de tout ça, à cause de son amour pour nous, nous pouvons être guéris aujourd'hui. Et quand on dit, c'est pas la volonté de Dieu que tout le monde soit guéri, qu'est-ce qui est tellement triste, c'est qu'on voit ce que Jésus a fait, même si on regarde un film, par exemple, comme La Passion du Christ, on voit toute l'horreur de ce qu'il a vécu, puis on se dit, il a fait ça vraiment pour rien, parce que c'est pas pour tout le monde. Hein? Vous pensez à ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Et 1 Pierre 2, 24, c'est-à-dire, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, c'est passé, là. C'est passé composé. Jésus a déjà payé pour nous qu'on soit guéri. Amen. Amen. Et là, il y en a qui vont dire, oui, mais Joël, ça, on parle d'une guérison spirituelle. Au Québec, j'ai entendu ça. Quand on donne des versets sur la guérison divine, les gens vont dire, ouais, mais ça, c'est juste l'esprit. Dieu ne se préoccupe pas avec le corps, là. OK? Mais des chrétiens comme ça qui m'ont dit ça. OK. Mais là, on doit comprendre une différence entre la pensée juive, OK, comment les juifs comprenaient la parole de Dieu, et la pensée gréco-romaine. Les gréco-romains, comme nous, là, c'est des gens, on divise la personne en 10 000 petits morceaux, et puis on se dit, OK, cette partie-là, c'est la partie que Dieu veut toucher. Mais selon les Juifs, Dieu veut toucher toute la personne. Toute la personne. Il n'y avait pas de division corps, âme, esprit, dans le sens que Dieu veut simplement toucher l'esprit puis pas l'âme. Non, il n'y avait jamais cette pensée-là. Dieu voulait bénir toute la personne. Donc, et c'est pour ça le mot shalom dans la parole de Dieu, qui est souvent traduit comme étant la paix dans nos Bibles françaises. Bien, ce mot-là, shalom, ça veut dire rien manquant, rien de brisé. Donc, Dieu veut ça pour nous, qu'on ait rien de manquant, rien de brisé. C'est le cœur du Père pour nous, qu'on soit guéri complètement, certainement dans notre esprit, mais pas seulement dans notre esprit. Vous voyez, il y a une différence. Dieu veut guérir notre cœur, mais il veut également guérir notre corps. Il veut guérir nos relations avec les gens. Il veut nous guérir à tous les niveaux. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et on peut prendre tous les versets de la guérison, puis dire, ah, ben c'est pas vraiment pour moi. On peut spiritualiser tous ces versets-là, puis dire finalement, on ne peut pas vraiment le prendre et y croire pour nous, ou on peut le croire réellement, puis dire ce que Dieu a dit, moi je vais le croire pour moi-même. Et j'espère que c'est ce qu'on va faire. Et dans 3 Jean 1, verset 2, ça dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Pourquoi est-ce qu'il parle de l'âme ici, quand on parle de la prospérité de la personne qui soit en santé? Pourquoi est-ce qu'il parle de l'âme? Mais c'est impossible d'être en santé si notre âme est malade. Si on pense que Dieu veut qu'on soit malade, c'est impossible pour nous de recevoir notre guérison. Dieu ici dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Il a même pris la peine de rajouter ça. Et d'être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors notre âme, nos pensées, nos émotions, notre volonté, constamment ça prospère, comme on se renouvelle dans notre intelligence par la parole de Dieu. Croyez-vous ça ce soir? Amen. Et dans Matthieu 8, versets 2 à 3, ici là, on va voir la volonté de Jésus. Quand Jésus priait pour les malades, on sait que c'était le Père qui était révélé par le ministère de Jésus. Et dans Matthieu 8, versets 2 à 3, ici, ça dit, « Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Voyez-vous, Jésus a répondu ici, « Je le veux. » Ça devrait être assez pour nous convaincre que Dieu veut que tout le monde soit guéri. « Je le veux. » Jésus le dit ici. Mais il y en a qui vont dire, « Oui, mais... » Il voulait pour cette personne-là seulement, puis pas nécessairement pour tout le monde. Avez-vous déjà parlé avec un chrétien qui vous a dit ça? C'est pas nécessairement pour tout le monde, ça. Dieu voulait pour lui seulement. Mais, dans Actes 10, 34, c'est dit, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'exception de personne. » Il ne fait point exception de personne. Ou dans la Bible du Sommeur, c'est dit, « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Ce que Dieu veut pour une personne, le bien-être que Dieu veut pour une personne, il veut la même chose pour quelqu'un d'autre. Il ne fait pas de différence et dire, OK, toi, je veux te bénir, toi, j'aimerais mieux que tu souffres dans ton corps, sois malade, vis là ta souffrance. J'ai entendu une prédication complète là-dessus, une heure de temps. Vis là ta souffrance. C'était ça la prédication. C'est super full stimulant, je peux vous dire. Mais c'est vrai, il y a toutes sortes de pensées comme ça. On doit revenir à la parole de Dieu. Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un, « Vis là ta souffrance. » Il ne l'a pas dit, ça, dans la parole. Mais il disait, oui, je le veux. C'est ça que Jésus disait. J'aime bien mieux me mettre en accord avec ce que Jésus disait que de mettre en accord avec la tradition des hommes. Et vous savez, il y en a plein de personnes au Québec qui vont lire une petite revue avec plein de traditions dedans. Je ne dirais pas le nom, mais il faut faire attention à ce qu'on lit. Parce qu'on doit, se concentrer sur les promesses de la parole de Dieu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Si vous lisez toujours des choses remplies de tradition, là vous dites, ouais, mais je prends ce qui est bon, je jette ce qui n'est pas bon. Prenons donc ce qui est bon à place, au lieu de toujours faire le triage. On peut se concentrer sur ce qui est bon au lieu de se concentrer sur ce qui est tout mélangeant. Amen. En tout cas, de mon côté, c'est ça que j'ai décidé de faire. Amen. Là, on va dire, ça, c'était l'œuvre de Jésus qu'on a pu voir dans la parole de Dieu. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais est-ce que c'est nécessairement la volonté du Père? Il y en a même qui iraient jusqu'à poser cette question-là. Mais dans Jean 5, verset 30, Jésus dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, si c'était la volonté de Dieu que quelqu'un soit guéri ou la volonté de Jésus, c'était certainement la volonté de Dieu le Père. Parce que Jésus faisait toujours des choses en accord avec la volonté de son Père. Comment est-ce qu'on peut faire la séparation entre le ministère de Jésus et dire que le Père ne veut pas ça pour tout le monde? Il faut croire l'ensemble de la parole ici. Et dans Matthieu 6, versets 9 à 10, si on se demande une question, est-ce que Dieu veut vraiment qu'on soit guéri? Bien, lisez la prière de notre Père. Dans Matthieu 6, 9 à 10, Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au ciel, est-ce qu'il y en a des hôpitaux? Est-ce que la maladie? Est-ce que les chaises roulantes? Est-ce que des gens en douleur au ciel? Non. Mais si Dieu nous demande de prier comme ça pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des gens qui rient, qui trouvent, mais il y a toutes sortes de raisonnements au Québec, hein, vous savez. C'est ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ça qu'on veut dans notre vie. Amen. Et dans l'Apocalypse, juste si jamais vous êtes mélangé puis vous dites, mais peut-être qu'il y en a des hôpitaux au ciel. Peut-être que vous vous posez la question. On va régler ça tout de suite. Apocalypse 21, verset 4. Ici, en parlant de Dieu, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut ça dans votre demeure chez vous. Il veut qu'il n'y ait plus de douleur, ni de cri, rien de ça. Dans Matthieu, plus de cri, plus d'enfants qui crient dans la maison. Matthieu 12, 15, des cris de joie, ça c'est bon. Matthieu 12, verset 15, ici, ça dit, « Jésus l'ayant su s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. » Donc, ça semble être une politique du royaume de Dieu. Jésus guérissait tout le monde. Mais là, vous allez dire, « Oui, mais Joël, c'est bien beau croire dans la guérison. Je crois dans tout ça, mais je ne l'ai pas vécu dans ma vie ou je n'ai pas vu toute la guérison, toute la provision, je ne l'ai pas vécue dans ma vie encore, puis j'aimerais ça, moi, la vivre. Comment est-ce que je peux faire pour vivre la guérison dans mon corps? Bien, ce qu'on va faire, on va voir ce qui peut retarder la manifestation de la guérison dans votre corps. Ce soir, c'est ça, on va se pencher sur certaines choses qui peuvent empêcher la manifestation de votre guérison. Êtes-vous prêt ce soir à voir c'est quoi? C'est quoi ces choses-là que je dois savoir pour être guéri? Donc, une des choses, et c'est très important, c'est l'ignorance. L'ignorance peut garder le peuple de Dieu malade. Donc, dans Osée 4, verset 6, il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, si on ne sait pas que Dieu veut qu'on soit guéri, ça se peut qu'on va passer à côté toute notre vie et être malade. Et il y a un texte aussi que j'aimerais vous lire. Là, en fait, je veux le lire directement à partir de la parole de Dieu parce que je veux compléter ce que ça dit. Dans Osée 4, verset 6, je vais lire au complet. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Ici, là, ce n'est pas simplement des gens qui ne connaissaient pas la volonté de Dieu, mais c'est des gens qui rejetaient la connaissance de Dieu. C'est une différence entre ne pas connaître quelque chose parce qu'on ne l'a jamais entendu, mais c'est une autre chose. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui vont la rejeter carrément. Ils vont dire, moi, je ne crois pas ça, c'est pas ma tradition, mon église, on n'enseigne pas comme ça, et puis, je ne peux pas croire là-dedans, la guérison pour tout le monde. OK? Mais ici, c'est clair, tu as rejeté la connaissance. Donc, l'ignorance ou le rejet de la vérité. Ça, c'est une raison qu'on ne peut ne pas recevoir notre guérison physique. Et il y en a d'autres qui vont dire, oui, Jésus a tout payé à la croix, mais c'était pour notre guérison au ciel seulement. Quand on va être rendu au ciel, on va tous être guéris. Et c'est vrai ça, on va tous être guéris au ciel. Mais quand on est malade sur la terre, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des promesses de Dieu pour la guérison aujourd'hui? Si c'est juste pour au ciel, on dirait, ben, vivons notre maladie, hein? Vis là ta souffrance. C'est ça qu'on dirait, vis là ta souffrance et puis rendu au ciel, on va être content. Mais si Jésus a déjà tout donné ces choses-là, il a déjà donné toutes ces promesses pour nous qu'on doit saisir par la foi, sûrement c'est pour qu'on puisse en profiter aujourd'hui. Amen. Donc, il faut connaître notre héritage et l'ignorance, certainement, ça va retarder la manifestation de la guérison. Et aussi, il faut faire attention que notre cœur ne soit pas dur quand on entend la vérité. Notre cœur peut être dur puis dire, je ne reçois rien. Hein? Il y a des chrétiens comme ça, ils disent, moi, je veux pas recevoir. Ils vont pas le dire de leur bouche, mais de leur attitude, ils vont dire, je veux pas recevoir ce message. Et il y a des gens même, on a su, des gens malades, des gens pauvres qui ont eu peur de venir à l'église ici parce qu'ils ont dit, de un, ils prêchent sur la guérison et de deux, ils prêchent sur la prospérité. Donc, moi, je veux pas aller là. Mais c'est quelque chose. Mais pourquoi vous voulez pas venir dans une église où on va vous enseigner le contraire de ce que vous vivez? À moins que vous aimez ça, vivre malade et pauvre. Si on aime ça, vivons-là notre souffrance. Mais si on veut le contraire, on veut changer, on veut laisser le Saint-Esprit changer notre cœur pour qu'on soit transformé et qu'on puisse recevoir l'héritage. Donc, l'ignorance. Deuxièmement, le péché. Le péché peut ouvrir la porte à la maladie. Romains 6, 23, ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un cycle de mort dans le péché. Quand on ouvre la porte à Satan, certainement, on peut être attaqué dans notre corps. Là, ce que je veux vraiment clarifier, c'est qu'au Québec, lorsqu'on a commencé à enseigner sur la foi, on a eu toutes sortes de personnes qui ont dit, « Ah, ben là, si t'es malade, c'est ta faute, t'as pas la foi ou t'as du péché dans ta vie. » Avez-vous déjà entendu des choses comme ça? S'il vous plaît, au nom de Jésus, dites pas des niaiseries comme ça en sortant de l'église ce soir. J'aimerais ça jamais entendre des rapports comme ça, qu'on juge les gens. Dieu nous a jamais demandé de juger les malades. Jésus était ému de compassion pour les malades. Il jugeait pas les gens puis disait, tu dois pas avoir la foi. Moi, là, j'aime pas ça, des commentaires comme ça. On veut aimer les gens. Et quand on aime les gens, on n'aura pas de jugement sur les gens. On va simplement dire, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux te soutenir dans la prière jusqu'à la manifestation de ta guérison? On sait que la guérison, ça nous appartient parce que c'est écrit, vous avez été guéri, mais si on n'a pas la manifestation aujourd'hui, on va prier pour vous. On va prier jusqu'à temps que ça arrive. Mais on ne va jamais changer la théologie de Dieu pour dire, ah ben, peut-être Dieu veut que tu sois malade, là. Oh, la grippe. Ouais, il doit être en train de t'enseigner quelque chose. Hein? C'est pas, on ne veut pas changer Dieu ou sa parole, on ne veut pas non plus juger les gens, on veut être équilibré, dire on croit la parole de Dieu et on va prier jusqu'à que la vérité de la parole de Dieu se manifeste dans votre vie. C'est ça qu'on devrait faire, sans jugement. Jamais, si on juge les gens, on attriste le Saint-Esprit. Des gens qui sont malades, non seulement ce qui souffre avec la maladie, mais en plus il y a un jugement qui s'en vient sur eux autres. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu veut qu'on puisse aimer les gens assez où on va pouvoir prier pour eux, les aimer. Puis si des gens sont dans des croyances erronées, par exemple, qui disent « Je dois souffrir pour Jésus. » Moi, j'avais une dame qu'on connaissait, mon épouse et moi, puis elle dit « I'm suffering for Jesus. » C'est ça qu'elle dit « Je souffre pour Jésus. » Et là, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est lui montrer que Jésus avait déjà souffert pour elle. Pourquoi souffrir encore? Hein? Jésus l'avait déjà payé. Et puis, donc... Tout ça pour dire que le péché peut ouvrir la porte. Et dans Galates 6, 7 à 8, ici on voit que le péché met en opération le cycle de la mort dans nos vies. Si ça dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, donc dans le péché, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, le plus qu'on va faire des semences dans le monde spirituel, le plus qu'on va récolter. Vous avez dit, comment est-ce qu'on peut faire pour semer dans le spirituel? Bien, mettez de la musique de guérison dans votre demeure. Mettez des versets de guérison sur votre lecteur CD. Remplissez votre maison de la parole de Dieu. Écrivez des versets de guérison, là, mettez ça sur votre comptoir, sur vos armoires, partout où vous allez, vous ouvrez la porte du frigidaire, voilà, vous avez un verset de la parole de Dieu sur la guérison. Remplissez votre maison, votre tête, votre corps, tout ce qui vous entoure de la parole de Dieu. Entretenez un environnement de guérison chez vous. Ça, c'est très important. Si vous venez prendre une douche dans ma douche, vous allez voir que j'ai des versets dans ma douche. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Ils sont plastifiés. Ah oui, pourquoi pas? Ça ne coûte pas plus cher, faisons-le. Hein? On veut semer dans l'esprit pour récolter de l'esprit. De l'autre côté, on peut semer dans le péché, récolter toutes sortes de problèmes. Des gens qui se ramassent avec le sida, mais ce n'est pas venu comme un don du ciel. Hein? C'est venu par le péché. Et certainement, il y a des enfants victimes aussi. On sait que ce n'est pas par leur péché, mais on sait que c'est à cause du péché que c'est venu. Et certainement, il y a un cycle de mort. Nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas en faire partie. On veut faire partie du cycle de la vie de Dieu. Et dans Romains 8, versets 22-23, ici, pour amener un petit peu aussi, pourrais-je dire, de l'équilibre, pour être sûr qu'on comprenne bien la parole, qu'on soit bien équilibré, c'est dire, alors, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, en parlant des chrétiens, qu'ils avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Donc, on soupire en dedans de nous autres, ici, c'est-à-dire en nous-mêmes, attendant la rédemption de nos corps. On sait que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, qu'on a été rachetés par Jésus, donc on n'a pas à subir la maladie. Cependant, on vit toujours les deux pieds sur la même planète, et puis il y a un monde de mort qui vit autour de nous. Alors, c'est sûr que l'ennemi peut venir nous attaquer, et on attend ce jour où on va être racheté entièrement, et c'est rendu au ciel où on va être dans un corps glorifié. Jusqu'à ce jour, malheureusement, on doit se teindre les cheveux s'il y a des cheveux gris qui sortent. C'est vrai. Même si on est chrétien, même si on est rempli du Saint-Esprit, ça se peut que vous allez avoir besoin de vous teindre les cheveux, que vous allez grisonner. Qu'on soit rempli de foi, ça ne change pas. On attend encore ce jour où on va être au ciel puis dans la perfection. Vous croyez tout ça aujourd'hui? Je suis pas en train de péter votre ballon, là? Parce que ça dit en parole, vous allez rajeunir comme l'aigle, absolument. OK? Mais ça se peut aussi que vous ayez besoin de vous teindre les cheveux. Ça fait partie de la vie. Parce que notre corps, le texte dans Romains 8, 22 à 23. Donc, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Parce que nous ne sommes pas encore dans ce corps glorifié. Mais même si on n'est pas rendu, attendons-nous au meilleur de Dieu aujourd'hui. Amen. Et là, ici, on voit le cœur de Dieu. Ici, dans Ézéchiel 18, 31 à 32. Je vous laisse tourner là. Dans Ézéchiel 31-32. Si on voit le péché, comment c'est pas la volonté de Dieu, comment certainement ça peut retarder la manifestation de notre guérison. Si on voit dans Ézéchiel chapitre 18 et le verset 31-32, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Ici, c'est Dieu qui parle. « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Je ne veux pas que personne meure. Je ne veux pas la maladie. Je ne veux pas ces choses-là. Repentez-vous, convertissez-vous et vivez. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ézéchiel 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est rafraîchissement, la vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est le désir vraiment du Père. Alors, ce qu'on devrait faire en réponse à sa parole, c'est se détourner du mal, se détourner du péché, d'arrêter de faire des semences dans le péché afin d'arrêter de récolter le péché, le fruit du péché dans nos vies, ce qui est la mort. Parce que le fruit du péché, le salaire du péché, c'est la mort. On ne veut pas la mort dans nos vies. On veut le cycle de la vie. Et comment on va vivre dans ce cycle de la vie? C'est par ses dépôts dans l'Esprit de Dieu, dans les choses de l'Esprit. Amen. Donc, c'est simple. Ce qu'on peut faire, c'est choisir la vie au lieu de choisir la mort. Et maintenant, une autre chose qui peut retarder la manifestation, et c'est étroitement lié au péché, c'est le mépris du corps de Christ. Le mépris du corps de Christ ou la Sainte Cène. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 28 à 31. Donc, c'est le mépris du corps de Christ. C'est de ne pas avoir de révérence lorsqu'on prend la Sainte Cène. Donc, c'est que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, pour cela, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Donc ici, encore une fois, il faut discerner le corps du Seigneur. Lorsqu'on prend la Sainte Cène, il faut réaliser ce qu'on fait. C'est quelque chose de sacré. On est en train de se mémorer l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans pour nous. Bien sûr, le jus de raisin qu'on prend représente le sang de Jésus qui symbolise que Jésus nous pardonne de toutes nos iniquités et le pain représente qu'il nous guérit de toutes nos maladies. Quand on fait ça, on se rappelle l'œuvre de la croix, on se rappelle l'alliance que Dieu a établie avec nous. On a cette alliance, c'est merveilleux. Mais si on prend cette chose-là sans vraiment même réaliser qu'est-ce qu'on fait ou prendre ça à la légère, on ne peut pas bénéficier de la bonté de cette scène-là. Et vous savez, il y a des gens qui le font juste à l'occasion ou même à l'église, ils disent « Ah bien, on fait ça une fois par mois, peu importe. » Mais on peut prendre la Sainte-Cène à tous les jours. Certainement, ce que moi j'ai fait récemment, et mon épouse, on a fait ça plusieurs fois récemment, quand on vit une attaque de l'ennemi dans notre corps, on prend la Sainte-Cène. Et même avant de vivre ça, on peut prendre ça tous les jours. Moi, je connais des gens qui prennent la Sainte-Cène, le matin, ils se lèvent, ils se versent un petit verre de jus de raisin, ils se prennent un morceau de pain ou peu importe, ils prennent ça et ils se rappellent l'œuvre de la croix. Il y a une puissance au niveau de la Sainte-Cène. Ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est quelque chose qu'on fait devant Dieu, on est en train de lui rappeler, qu'on est en train de se rappeler. On peut faire ça, il y a une force là-dedans. Croyez-vous ça aujourd'hui? Amen. Et moi, je connais même une histoire, il y avait un couple, des croyants, ils étaient dans un voyage et puis ils étaient mal pris, leur enfant était malade et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on veut prendre la communion, mais on n'a rien, on n'a pas de pain, on n'a pas de jus. La seule chose qu'il y avait, c'était du Pepsi et un Joe Louis, sans, genre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bien, on va faire la Sainte-Cène avec un Joe Louis puis du Pepsi. Ils l'ont fait et l'enfant a été guéri. Gloire à Dieu! Dieu, ça ne dérange pas que ce soit du Pepsi là, ou du jus de raisin. C'est sûr, nous, on a mieux du jus de raisin, ça fait plus beau, là. Moins pétillant. Mais tout ça pour dire que c'est important, on peut le faire et puis mépriser le corps de Christ, ça peut certainement retarder notre guérison. Hein, ça, c'est clair. Une autre chose, la tradition et surtout, il faut mentionner l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Parce que ce soir, si vous êtes ici, il y a peut-être toutes sortes de versets, toutes sortes de choses, des enseignements dans votre tradition où vous dites, c'est bien beau, je crois dans la guérison, je crois dans la possibilité, dans le pouvoir de Dieu, mais je ne suis pas sûr que c'est pour tout le monde. Et je peux vous dire, vous pouvez croire que Dieu peut guérir, mais ça ne va rien faire dans vos vies quand vous êtes malade. Parce que vous allez dire, ben, Dieu peut le faire, mais est-ce qu'il veut le faire dans ma vie? Si on n'est pas convaincu que Dieu veut le faire, on ne le recevra pas. Donc, il faut avoir ça dans notre cœur. Et les chairs dans la chair de l'apôtre Paul, bien, ça, c'est un texte qui a été pris hors contexte pendant des décennies ou des cent ans, peu importe, pendant 2000 ans peut-être, là, mais les gens ont mal pris ce texte-là puis ont dit, Dieu des fois dit oui, d'autres fois il dit non. Souvent, on a pris ce texte-là pour dire, Dieu des fois, il dit oui ou il dit non. On va lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 7 à 10. Vous savez, des mauvaises traditions annulent la parole de Dieu. On ne veut rien annuler, on veut tout recevoir ce que Dieu en réserve pour nous. Et les chairs dans la chair, moi j'en avais parlé dans mon livre sur la guérison divine, qui est en anglais. Là. Et puis, je me souviens quand ma mère lisait mon livre, elle riait dans le salon. Puis j'étais tout insulté, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je dis rien de drôle dans mon livre pourtant. Elle riait. Puis ma mère, elle a un rire qui communiquait, elle riait. Mais elle dit, ben, c'est parce que c'est tellement clair, comme tu le dis. Elle riait parce que de la clarté de la chose. En tout cas. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Oh, c'est un mystère. On ne sait pas c'était quoi les chairs dans la chair de l'apôtre Paul. C'est un mystère. Écrivons toutes sortes de thèses théologiques, des livres super épais avec plein de poussière dessus. Faisons plein d'ouvrages comme ça pour peut-être imaginer c'était quoi cette révélation, ce grand mystère. Bon, on va le relire ensemble. Peut-être Dieu va vous montrer c'était quoi. Hein? C'est là ce que ma mère a commencé à rire. Elle dit, c'est tellement clair. OK, on le voit, c'est quoi là? Mais on va le relire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, vous voyez ici, là. Et il m'a dit, non, je veux que tu restes malade. Non, ça dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bon, on va examiner ce texte-là ensemble, OK? Donc, premièrement, je vous propose aujourd'hui que les chairs dans la chair de l'apôtre Paul n'étaient pas une maladie, mais que c'était un ange de Satan. Savez-vous pourquoi je propose ça? Parce que c'est écrit. OK? Donc, un ange de Satan. Et là, l'apôtre Paul a prié trois fois au Seigneur d'être délivré de cet ange de Satan, et pas de la maladie, mais de l'ange de Satan. Et là, la tradition enseigne que là, Dieu a dit, « Non, garde-la ta maladie. » C'est ça que je veux. Est-ce que c'est vrai? La tradition vous enseigne ça. Non, garde-la ta maladie. Mais là, on va voir qu'est-ce que la parole dit vraiment. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et en plus, on voit que c'était même pas en lui. Là. C'est de l'éloigner de moi. C'était juste un ange, un démon fatigant dans sa vie qui amenait toutes sortes de persécutions le long de son chemin. Mais ici, il priait, l'éloigne-le donc de moi. Fais qu'il s'en aille. Et là, Dieu a dit, ma grâce te suffit. C'était la réponse que Dieu donnait. « Ma grâce te suffit. » Ah oui, là, la tradition de la grâce, c'est une autre chose. Il faut décortiquer ça, la grâce. La grâce, ça veut dire « je peux supporter des choses. Hein? » Dieu nous donne de quoi supporter, il nous donne la grâce. « Seigneur, donne-moi ta grâce. » Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire ça? « Seigneur, donne-moi ta grâce. » La grâce, c'est, j'essaie de comment l'expliquer, là. Je l'avais en anglais, mais en tout cas, c'est la puissance de Dieu pour surmonter toute épreuve. The overcoming presence of, c'est la présence de Dieu qui vous permet de surmonter toute épreuve. Donc, c'est la présence de Dieu dans une situation. Ma grâce te suffit. Tu as déjà ma présence, mon Paul. Tu l'as, ma présence. Tu peux déjà tout surmonter à cause de ma présence. Donc, on va revoir comment ici, il dit, ma présence, si on veut, te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand toi, tu es faible, Paul, là, tu réalises que tu es faible, que tu ce démon-là qui vient t'attaquer. Mais quand tu réalises que tu es faible, bingo, ma puissance peut venir en toi. Puis toi, tu peux surmonter toutes tes épreuves à cause de la puissance de Dieu. Tu ne vas pas combattre dans ta chair ou par tes forces personnelles, mais ça va être par la puissance de Dieu. Tu vas être capable d'avoir la victoire sur l'ange de Satan, par la présence de Dieu. Voyez-vous comment ça change notre perspective ici? Quand on ne mélange pas la tradition, quand on lit vraiment la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? C'est merveilleux, c'est rafraîchissant. Puis il y a plein d'autres versets qu'on pourrait prendre qui sont remplis de traditions, puis que vous lisez encore aujourd'hui, puis vous dites, « Ouais, mais là, ça dit ça ici. » Mais des fois, là, c'est juste la façon que c'est traduit aussi en français. Souvent, il faut comparer dans d'autres versions. Parce que moi, des fois, je lis la Bible Louis II, puis je suis frustré. Je dis, « Ben voyons, c'est pas comme ça devrait être traduit. » Puis là, je vais voir dans d'autres Bibles, je vais lire dans le grec, puis dans l'hébreu, dans les Bibles interlinear. Puis là, on va voir, c'est ça que ça veut vraiment dire. Puis des fois, c'est mal traduit. Puis là, il y a tout un monde de chrétiens qui vont juste lire une version toute leur vie, puis ils vont croire des choses qui sont pas bien définies ou bien traduites. Donc, au verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Et là, l'apôtre Paul continue, « Je me plais dans toutes ces choses-là parce que quand je réalise que je suis faible en dedans de moi-même, je sais que c'est sa puissance à travers moi qui me donne la victoire. » Amen. Donc, il faut changer notre façon qu'on pense. Mais là, vous allez dire, oui, mais d'un coup, Joël, ce n'est pas vraiment un ange de Satan. Admettons que c'était la maladie, comme je me suis fait enseigner pendant 25 ans. Admettons. Mais là, on va voir, mais regardez d'autres places dans la parole où on parle d'un écharpe dans la chair. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs dans la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est juste là? Si c'est ailleurs, on va voir les autres fois, c'est-tu la maladie? Dans Nombre 33, verset 55, C'est dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, donc on parle encore ici de personnalité, on ne parle pas de maladie, mais si vous ne chassez pas les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Donc si on ne parle pas encore, ils vont être des aiguillons, des personnes vont vraiment être des aiguillons dans vos côtés. On ne parle pas là qu'une personne va rentrer leur corps et puis... Non, on parle ici qu'ils vont être des irritations dans vos vies. Si vous les permettez de demeurer dans le pays que je vous donne, ils vont être des irritations pour vous. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et dans Josué 23, verset 13, si on lit, c'est dit, « Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtes et des épines dans vos yeux. » Jusqu'à ce que vous soyez, que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Donc, ici, encore une fois, on parle d'épines dans vos yeux et on parle de personnalité, on ne parle pas de maladie. Amen. On l'a lu ensemble, vous voyez ça? C'était dans Josué, chapitre 23, verset 13. Alors, si on veut interpréter la parole à la lumière de la parole, on ne peut pas créer des traditions qui sont carrément à l'extérieur de la parole de Dieu. Et il y a d'autres passages certainement qu'on pourrait défricher ce soir pour parler de la maladie. Il y a peut-être d'autres versets qui vous rentrent dans la tête présentement. Puis là, vous dites « Oui, mais. » Et comme je vous dis, allez vous télécharger le livre « Christ the Healer ». Les « oui, mais » vont être adressés dans ce livre-là. Ce soir, on est en train d'établir juste la base que Dieu veut que vous soyez guéri. Puis là, vous allez se quitter, vous allez dire « Ok, je crois ça, Dieu veut que je sois guéri. » Et si Dieu veut que je sois guéri, bien, je vais commencer à croire ça. Heureusement, non seulement est-ce qu'on a vu dans ce texte-là que Satan, l'ange de Satan, était là pour attaquer Paul, mais on voit que Dieu n'a pas refusé de l'aide parce que dans 2 Timothée 3, verset 11, il est écrit, l'apôtre Paul disait ici, « Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Le Seigneur a délivré l'apôtre Paul de toutes ces choses-là, toutes les choses qu'il a vécues, le Seigneur l'a délivré. Donc, c'est la preuve que ce n'était pas « Non, garde-la ta maladie. » C'est la preuve que Dieu n'a pas dit ça quand l'apôtre Paul a demandé de l'aide. Parce que sinon, il aurait dit « Il m'a délivré de tout, sauf les chairs dans la chair. » Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a été délivré de tout. Amen. Donc, ce qui peut retarder la manifestation, on a vu à date, l'ignorance, le péché, le mépris du corps de Christ, la tradition concernant les chairs dans la chair. Et une autre chose qui peut vous rendre malade ou vous empêcher de recevoir votre guérison, c'est le chagrin ou la négativité. Si vous êtes un chrétien toujours négatif, on vous demande comment ça va. Ah, ça va. OK? Peut-être vous êtes un chrétien négatif, puis le chagrin peut-être vient vous accabler. Si vous êtes toujours déprimé, bien heureusement, on connaît celui qui peut vous rendre joyeux. Amen. Si vous êtes heureux, on vous pose comment ça va. Ça va bien, gloire à Dieu. On sait que peut-être il y a des défis. Mais par la foi, on dit ça va bien et puis on s'attend que Dieu va continuer à faire des choses dans nos vies. On peut avoir une vision positive de la vie. On peut avoir un verre, moi je peux dire il est à moitié plein, vous pouvez dire il est à moitié vide. Hein, c'est la même chose, sauf c'est notre perspective. Je vais prendre une petite gorgée. Dans Proverbes 17, verset 22, ici il est écrit, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous êtes abattu, vous êtes toujours déprimé, ça dessèche vos eaux. Vous êtes en train de vous tuer par votre mauvaise attitude. Et c'est de quoi ça? On va relire. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous êtes malade? Bon, écoutez des enseignements de guérison ou mettez-vous un film qui va vous faire rire. Hein? Faites-vous rire. Riez. Riez un petit peu. Souriez. Moi, je me suis fait dire, là un an, j'étais tellement occupé dans le ministère. Puis j'ai reçu de la prière parce que j'étais épuisé, tout ça. Puis une sœur a dit, « Joël, qu'est-ce que tu as besoin, là? » Elle dit, « Tu as besoin de rire plus. » J'étais comme, « Elle dit, tu as besoin de te rappeler, de te souvenir de Joël. Rappelle-toi de toi. Ris. » Puis elle ne me connaissait pas, la femme, là. Tu sais, on se connaissait pas vraiment. Puis j'ai dit, « C'est vrai, j'ai besoin de rire plus. Je suis trop sérieux. » C'est vrai, j'avais tellement de choses, puis quand on vit tellement, puis on est stressé dans le temps, puis il y a tellement de choses, tellement d'attentes, des fois, on oublie de rire. Hein? Mais il faut être heureux dans la vie, être joyeux. Puis s'il y a quelque chose de négatif, bien, au lieu de dire, c'est dans mes poches, On peut dire, comment est-ce que je peux voir ça d'une lumière positive? Comment est-ce que je pourrais changer ma perception que j'ai présentement puis changer ça? Ah, ben, il y a beaucoup de place à l'amélioration là-dedans. Ah, il y a beaucoup de place à améliorer cette chose. Ah, on peut toujours choisir comment on va répondre à une situation. On va mettre deux personnes, il y a une situation, les deux vont être témoins de la même affaire, puis il y en a qui vont être super négatifs, puis d'autres vont être super positifs. Ça dépend tout le choix de notre esprit, comment qu'on est. Dans Philippiens 4:4, ça dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Comment est-ce qu'on peut faire ça? Dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, il y a tout l'héritage, même si on est dans la pire situation, dans le Seigneur, on est toujours dans la meilleure situation. On est dans la meilleure situation dans le Seigneur. Parce qu'il y a toujours la réponse pour tous nos besoins. Il y a également une autre chose qui peut retarder la manifestation de notre guérison, c'est notre confession. Qu'est-ce qu'on confesse? C'est quoi qui sort de notre bouche constamment? Dans Proverbes 18, verset 21, ici il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » C'est quoi qui sort de votre langue? De votre bouche, plutôt. C'est quoi qui sort de votre bouche? La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Donc, votre langue a le pouvoir de vie sur vous. C'est vrai, ça. Donc, dépendamment de ce que vous dites, mais là, vous dites, « Ouais, mais Joël, admettons que je suis malade, là. Je ne peux pas me promener et dire à tout le monde je suis guéri. C'est évident. Regarde comment je suis, là. Hatchoum, hatchoum. Ah, c'est évident. Le monde va dire, « T'es tombé sur la tête. T'es pas guéri pantoute. Regarde-toi, là. » Ah, on pourrait dire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est... faire comme Dieu. On va imiter Dieu. Si Dieu le fait, à quelque part, ça doit être correct pour nous. Hein? Dans Romains 4, verset 17, ici, ça dit, « Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas, mais il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez, admettons, là, on dit, c'est dimanche au soir. Et admettons que Dieu arrivait dans l'église, il est déjà ici, là. Mais admettons Dieu arrivait et dit, « Tout le monde, c'est lundi matin. » On ferait dire, « Non, 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 c'est dimanche au soir. » J'ai dit, « C'est dimanche matin, lundi matin. » Admettons. Et le fait qu'il aurait dit, ça serait lundi matin, parce que Dieu ne peut mentir. Hein? Dieu ne peut pas mentir. Tout d'un coup, là, il ferait super clair dehors, là. Et ça serait lundi matin, parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est exécuté, ça l'arrive. Donc, nous, on peut faire pareil comme Dieu, et au lieu de dire, hey, « Je ne peux pas me lever un matin, regarde comment je suis. » Comme hier matin, je me suis réveillé, là, je ne me sentais pas bien, et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit la réalité dans le sens que j'ai dit, « Je vis une attaque, mais gloire à Dieu, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. » OK? J'ai pas dit, « Ouais, ben, je n'irai pas à Montréal aujourd'hui. Il y avait un party pour mon père qui vient de fêter sa retraite. En passant, mon père il est à la retraite ce soir. J'aurais pu dire, hey, je vais rester chez nous me coucher. Mais non, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri et je m'attends de voir la manifestation de cette chose. Je m'attends de voir la manifestation de la guérison. Puis ça a bien été. Et puis, on continue à croire pour une pleine manifestation dans mon corps. Amen. Et c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas en train de mentir quand on dit qu'on croit, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri. C'est juste une question de temps, question de manifestation. Et vous voyez dans Genèse 1, verset 3, c'est dit, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » On dit la vérité, on décrète ce que Dieu dit et ça l'arrive. Et dans Luc 6, verset 45, ça dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si je remplis mon cœur des promesses de guérison, bien, c'est ça qui va sortir de ma bouche. Au lieu de dire, « J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le cou, j'ai mal aux oreilles, oh, j'ai mal à la tête, je tousse. » Au lieu de dire toutes ces choses-là, ça va sortir dans mon cœur toutes les promesses de Dieu. Bien, je m'attends à une pleine guérison. Je reçois l'onction dans ma vie. Et vous allez dire, « Ouais, mais ce n'est pas la vérité. » Oui, c'est la vérité. La vérité, c'est toujours la parole de Dieu. Votre réalité doit se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. C'est juste, c'est ça. Votre réalité doit se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole de Dieu a plus de puissance que votre réalité. Dans Hébreux 11, verset 3, ça dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, où le monde visible tire son origine de l'invisible. Des paroles invisibles ont créé le monde. Vous aussi, par vos paroles, vous pouvez créer votre monde. Hein? » Oui, vous pouvez créer votre monde en vous accordant avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, « Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire par ces meurtrissures j'ai été guéri. C'est pas vrai, regarde-moi. Hein? » Il y a des gens qui vont dire ça. Bien, en fait, vous êtes en train de mentir. Parce que Dieu dit ça. C'est qui dit vrai? Toi ou Dieu? C'est Dieu qui dit, « Par ces meurtrissures j'ai été guéri. » Bien, moi, je crois ce que Dieu dit. « Ouais, mais ça ne paraît pas. » Peut-être pas, mais ça va paraître bientôt. Amen. C'est ça notre position. On ne croit pas la tradition, on ne croit pas ce qu'on voit, on croit ce que Dieu dit. Toujours demeurant dans l'amour. Donc, on ne veut pas être négatif, on ne veut pas confesser et s'ostiner avec Dieu et dire que Dieu est menteur, on veut dire que Dieu dit vrai. Et l'autre chose qu'on doit faire, c'est bannir l'inquiétude de nos vies. L'inquiétude, ça ouvre la porte. Il y en a des gens qui disent, « Ah, bien, c'est normal de s'inquiéter, hein? C'est normal, on ne peut pas faire autrement. » Mais si Dieu nous dit, dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien. » C'est un commandement. Ça ne dit pas « si ça vous tente, si ça vous convient », mais ça dit « ne vous inquiétez de rien ». C'est un commandement de Dieu ici. « Ne vous inquiétez de rien. » On n'a pas à s'inquiéter. Moi, j'ai été obligé de me repentir hier, avant-hier, parce que Floramé, qui était parti jouer au quai avec des amis, est arrivé une demi-heure en retard. Il y avait une grosse tempête, puis j'avoue, j'étais un petit peu inquiet. Puis là, je disais à mon épouse, dans l'auto, j'ai dit, j'ai demandé pardon à Dieu, parce que je me suis inquiété pour elle. Là, vous avez dit, ouais, mais là, c'est normal, là, de vivre, d'être concerné. C'est normal d'être concerné, mais il ne faut pas s'avir à l'inquiétude. Hein? Il faut être préoccupé avec nos enfants, on les aime. Si j'étais insouciable, oh, alléluia. Non, faut avoir les deux pieds sur la terre quand même et dire, OK, mon enfant est en retard, je vais appeler, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Hein, on est concerné, mais il ne faut pas s'avir à l'inquiétude. Parce qu'il y a des gens là, tourmentés par l'inquiétude. Ça, c'est de ne pas avoir la foi en Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous encore le cœur, on parle encore du cœur et de vos pensées, parce que les pensées, ça a le rapport avec le cœur et ça a le rapport avec notre âme. Et Psaume 55, verset 23, ici, on se fait donner un autre commandement de la part de Dieu, c'est dit, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Donc, remets ton sort à l'Éternel. Amen. Et d'autres choses aussi qu'on doit faire attention, la crainte. Dans Job, chapitre 3, verset 25, on sait que Job, c'était un grand homme de Dieu qui aimait le Seigneur. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui pouvait ouvrir une porte légale à l'ennemi? Même si Job n'avait rien fait pour commettre un péché qui ouvrait une porte, il y avait d'autres choses. C'est dit dans Job 3, 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » La crainte ouvre une porte à l'ennemi dans nos vies. Et si on la lit dans la Bible du Sommeur, ça dit « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Toutes les choses que j'avais peur qui arrivent, hey, ça m'arrive. » Oui, et c'est pour ça que Jésus ou Dieu a dit à Satan, quand Satan était là au ciel auprès de Dieu, puis il dit « Regarde, là, la seule raison pourquoi que Job te suit, c'est parce que tu le bénis. » Mais là, frappe-le, puis check, ou laisse-moi, en réalité, c'est Satan qui l'a frappé, on sait ça, là. Mais si tu touches à sa vie, ou si tu touches à toute sa vie autour de lui, ses enfants, tout ça, là, bien, on sait qu'il va te renier, il va te maudire. Mais on sait ici que ce n'était pas le cas, là. Job n'a pas maudit, et l'affaire qui a pu descendre le mur de protection dans la vie de Job, c'était justement ça, la crainte. Hein, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, il faut tasser la crainte de nos vies. Parce que dans 1 Jean 4, 18, ça dit « La crainte n'est pas dans l'amour, et Dieu est amour. » Donc, si on veut marcher en Dieu, on ne veut pas marcher dans la crainte. C'est une chose. L'impatience, c'est une autre chose. On est impatient. On a reçu la prière, quelqu'un a prié pour nous, puis on se dit « Hey, je suis guéri. » On quitte l'église, puis tout d'un coup, on a encore mal. « Oh, je pensais que j'avais été guéri. Je l'ai perdu, ça de l'air. Je suis plus guéri. » Arrêtez une seconde. On dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Mais comment ça, tout d'un coup, tu n'as plus la manifestation de ta guérison? On a prié pour toi. Est-ce que peut-être tu dis, ben, parce que là, j'ai un symptôme que ce n'est pas accompli. Des fois, on croit plus les symptômes que la parole de Dieu. C'est une autre chose. On est impatient, puis on pense que, vous savez, là, il faut que ça se passe tout de suite. Puis si ça ne s'est pas produit tout de suite quand je suis venu en avant, ben je ne l'ai pas reçu. Ça ne veut pas dire ça. Des fois, c'est en chemin, en route, vous allez être guéri. Croyez que quand on a prié pour vous, que vous avez été guéri, que vous avez reçu tout ça, vous avez reçu l'héritage, et en chemin chez vous, attendez-vous d'être guéri. Vous savez, il y a des miracles de guérison. On prie pour quelqu'un, puis instantanément, la personne est guérie. Ça, c'est un miracle. Mais la majorité du temps, dans le corps de Christ, c'est une guérison progressive. On est guéri, puis ça prend plus qu'une journée. Souvent, il faut se tenir, puis livrer le bon combat de la foi. Et c'est pour ça, ce soir, que je voulais vous enseigner sur la guérison divine, parce que à moins de vivre un miracle de la part de Dieu, vous allez devoir savoir comment vous défendre quand vous êtes attaqué dans votre corps physiquement. Vous allez devoir savoir, OK, je n'ai pas vécu le miracle instantané que je voulais, alors ce que je dois faire, c'est je dois livrer ce combat de la foi. C'est quoi ça? Comment est-ce que je peux faire ça? Je me remplis de la parole de Dieu, je laisse la parole de Dieu transformer mon cœur, mon âme, pour que je puisse commencer à penser comme Dieu, parler comme Dieu et vivre tout l'héritage qui m'appartient. Mais il faut être conscient qu'on a une responsabilité. On a quelque chose à faire. Puis la raison pourquoi je dis tout ça, c'est dans Luc 17, verset 14. Là, ici, ça parle de Jésus qui a prié pour les lépreux. Ça dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, ils arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'il y allait, en chemin, ils ont été guéris, les 10 lépreux. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve même dans la parole de Dieu, même dans le ministère de Jésus. Il dit, vous êtes guéris, ils s'en vont. Et puis, il aurait pu dire, je ne m'en vais pas me présenter, regarde, j'ai encore des problèmes, là. Jésus, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis? Hein, il aurait pu s'ostiner comme certains Québécois font. Hey, ça ne paraît pas, là. En chemin, ils ont été guéris. Peut-être votre chemin, c'est plus qu'une journée. Peut-être c'est 2 jours, peut-être c'est 3 jours, peut-être c'est 1 mois. Mais en autant qu'on croit aujourd'hui, à la fois, c'est pour aujourd'hui. On croit aujourd'hui dans les promesses de Dieu. On croit pour la guérison aujourd'hui. Puis si ça prend plus qu'un jour, ben, au moins on va recevoir. Hein? C'est bien mieux de continuer dans la foi que de se décourager puis d'aller dans le doute. Si on va dans le doute, c'est impossible d'être guéri. Quand on marche dans le doute puis on dit, ben, Dieu ne veut pas me guérir, bien, c'est sûr, on se met en position pour rester malade. Mais si on dit, moi je crois dans la parole de Dieu, je crois pour la guérison pour mon corps, et je marche dans cette foi-là jusqu'à temps que ma manifestation soit complète, on est dans une bonne position pour être complètement guéri. Amen. Donc, il ne faut pas être impatient parce que ça prend plus qu'une journée. Une autre chose, la passivité. OK? Des gens, que sera, sera. Si Dieu veut. Si on est passif, là, ça se peut que ça va retarder aussi notre guérison. Dans l'Apocalypse 3, verset 11, ici, ça dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. » On a prié pour toi, tu as ressenti quelque chose, retiens ce que tu as, décourage-toi pas. Et ce texte-là, ça a le rapport avec les couronnes qu'on va recevoir au ciel, mais c'est un principe qu'on peut appliquer à plein de choses dans nos vies. Quand Dieu nous fait un cadeau, retiens ce que tu as, laisse pas l'ennemi venir te voler ces choses-là. Amen. Mais dans 1 Timothée 6, 12, ça dit « combat le bon combat de la foi ». Si à quelque part, ça nous dit « combat le bon combat », là, bien, on a quelque chose à faire. Si on est passif, on est comme la majorité des chrétiens au Québec, « Ah ben, j'ai la grippe, ouais, dans 2 semaines, je devrais l'avoir parce qu'il y a des virus qui courent. » Hein? C'est vrai? Je devrais l'avoir, mais là, c'est mes enfants, mais peut-être dans 3-4 jours, je pense que ça va être moi, parce que je les ai toujours 3 jours après eux autres. Hein? Il y en a des chrétiens qui parlent comme ça. Là, on est passif, on s'attend même à vivre la maladie. Mais combat le bon combat de la foi. Laisse-toi pas faire. Sois violent en esprit, parce que dans Matthieu 11, verset 12, ça dit, « Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Il faut être violent en esprit. « Hey, diable, tu ne m'auras pas. Je vais être guéri. Je reçois ma manifestation au nom de Jésus. » C'est pas compliqué. Hein? C'est juste ça. Il faut croire la parole, puis dire, « OK, je vais le croire jusqu'à temps que je reçoive complètement. » Et une autre chose, en terminant, l'excès du travail. Il y a des gens qui sont malades, et moi, ça a été mon cas. Moi, quand j'ai tombé malade, c'est souvent parce que j'étais tellement fatigué, là, que quand j'arrêtais, je tombais malade. Parce que je courais. Et même j'ai vécu ça en voyage. Là, finalement, je m'arrêtais, puis je tombais malade. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas Dieu qui dit, « Joël, tu es en vacances, check bien, je vais t'enseigner plein d'affaires. Sois malade, là, mon enfant. Hein? » Je connais une sœur qui était très malade, puis il y a des chrétiens qui ont dit, « C'est quoi que Dieu t'a enseigné là, dans tout ça? » Puis elle a dit, « J'ai rien appris. » Et moi, j'ai dit à cette personne-là, « Exactement, tu n'as rien à apprendre dans la maladie. C'est pas l'école du Saint-Esprit. C'est pas l'école du Saint-Esprit, la maladie. Cependant, si vous êtes malade puis vous apprenez de quoi, ben c'est un bonus. Hein? Si vous êtes couché sur votre lit pendant 2 mois, là, puis vous regardez le plafond, puis là, vous vous mettez à prier, ça se peut que vous allez apprendre des choses. Ben, gloire à Dieu si vous apprenez, mais vous apprenez malgré la maladie, pas à cause de la maladie. Voyez-vous? C'est une différence. C'est sûr, Dieu peut se servir de n'importe quoi. Vous êtes dans un accident d'auto, admettons, ben Dieu peut se servir de quelqu'un qui est venu pour vous aider, ça vous a béni. Ah, mais Dieu n'avait pas besoin de l'accident d'auto pour que vous soyez béni. Voyez-vous, il y a toutes sortes de pensées comme ça là, que le monde va avoir. Mais pour revenir à mon point, là, l'excès du travail, okay, Exode 20, 8 à 10. Ici, on retrouve dans la parole de Dieu un principe, et je vous dis, je termine, ne soyez pas découragés, je termine. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Bon, ici, est-ce qu'on est encore sous la loi? Non, on n'est pas encore sous la loi. Cependant, Dieu nous a montré un principe de repos. On devrait se reposer au moins une fois par semaine. Et il y en a qui vont dire, oui, il faut que ce soit le dimanche aussi. Bien, je vais vous dire, moi, le dimanche, c'est pas ma journée du repos. C'est la journée où je travaille le plus. OK, on monte, on démonte et je prêche et tout ça. Je suis pas en repos le dimanche. Moi, je prends les lundis en repos. Faut pas être légaliste, mais il faut se rappeler du principe que Dieu a établi. On devrait prendre une journée au complet puis être en repos. Si on le fait pas, on ouvre la porte à tomber dans la maladie. C'est vrai. Parce que dans Genèse 2, verset 2, ça dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Si Dieu s'est reposé, pensez-vous que vous êtes meilleur que Dieu? Hein? Pensez-vous, « Ben moi, j'ai pas besoin de me reposer. » Écoutez, Dieu l'avait besoin, mais je crois que Dieu l'avait besoin, c'était pour nous servir d'exemple, pour nous démontrer qu'on devrait se reposer. OK? Donc, si Dieu l'a fait pour nous servir d'exemple, qu'on devrait honorer ce principe-là dans nos vies, certainement on devrait le faire. Et dans Philippiens 2, verset 30, ici on voit Épaphrodite, OK, et verset 30, ça dit « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Donc ici on voit que Épaphrodite a été malade à cause qu'il travaillait tellement fort. Et on voit ici parce que il allait supplier ou aider là, les chrétiens, tout ça. Donc, c'est une chose qu'on peut faire, on peut se surmener et tomber malade. Donc, ce soir, on a vu quelque chose qui peut empêcher la manifestation de notre guérison. Peut-être vous avez appris quelque chose, peut-être non, mais peut-être le Seigneur est en train de vous dire, OK, il y a des choses qu'il faut réajuster dans nos vies pour vivre dans la santé, pour recevoir notre guérison. Et puis, peut-être c'est juste la façon que vous parlez. Peut-être c'est juste la façon que vous voyez les choses. Hein? Peut-être vous voyez la vie du côté noir. Puis peut-être aujourd'hui, vous allez dire, « OK, moi, je vais choisir maintenant d'être rempli de joie. Parce que la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur va me donner la force pour marcher dans la victoire dans ma vie. Si je suis toujours négatif, toujours déprimé, je vois toujours les choses du mauvais côté, bien, ça se peut que je vais me ramasser avec des problèmes physiques. Hein? » Il y a toutes sortes de choses pratiques qu'on peut faire pour marcher dans la santé. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous demander de vous lever et on va prier ensemble pour ceux qui veulent vraiment activer la santé dans leur vie. On va faire cette prière ensemble et je vais vous demander de répéter après moi. Si vous avez besoin de guérison, vous savez, je crois qu'on peut prier pour les malades, imposer les mains aux malades et ils vont être guéris. C'est un principe, on l'a vu aussi récemment, mais je crois aussi qu'on peut combattre le bon combat de la foi pour soi-même. Et dire, moi, là, ce que je vais faire, moi aussi, je vais m'engager. Je vais m'engager à vivre dans la santé. Ici, on va prier ensemble. Je vais vous demander de répéter après moi. Père éternel, je déclare aujourd'hui que l'Évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour mon salut. Ta parole révèle, tu pardonnes toutes mes iniquités. Tu guéris toutes mes maladies. Tu délivres ma vie de la fosse. Tu me couronnes de bonté et de miséricorde. Alors je reçois ta parole. Je suis en accord avec ta parole. Jésus, tu as été blessé pour mes péchés. Tu as été brisé pour mes iniquités. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je te couronne roi et Seigneur de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Je renonce à l'œuvre de Satan dans ma vie. Va-t'en, Satan. Tu n'as aucune autorité sur moi. J'abandonne tout péché. Je choisis la sainteté. Seigneur, je reçois mon héritage. Je reçois la puissance de Dieu. Maintenant, pour me sauver, me délivrer, me prospérer, me guérir, ta parole ne retourne pas sans effet. Elle exécute ta volonté et accomplit tes desseins. Maladie et douleur, crainte et pauvreté, je vous résiste au nom de Jésus. De ma tête aux pieds, je suis guéri, saint et béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir et donner une main d'applaudissement? Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Merci Seigneur Dieu que ta parole est toujours vraie. Et on reçoit notre héritage Seigneur ce soir. Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole. On reçoit Seigneur ce soir de la tête aux pieds la guérison. Et même ceux qui ne sont pas ici ce soir, qui sont malades chez eux, on relâche sur eux l'onction de guérison. Que eux aussi soient guéris de la tête aux pieds. Rien de manquant, rien de brisé. Merci Seigneur, c'est notre héritage en tant que famille. Merci Jésus, merci tu le fais même ce soir. Gloire à toi. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.